Bonjour. Veuillez excuser mon retard ce matin, quelques raisons de santé qui m'ont retenu. Je vais vous lire un extrait de Wikipédia. Je vous laisse deviner le sujet. Alors que Pantagruel et ses compagnons, dont Panurge, parcourent la mer afin de consulter l'oracle de la dive Bouteille, ils abordent un navire de commerce et font connaissance avec les passagers. Une altercation éclate entre le marchand Dindenot et Panurge, le premier s'étant moqué de l'accoutrement ridicule du second. Après le retour au calme, Panurge décide de lui acheter un mouton. La transaction s'éternise, car le troupeau appartient à la race de Chrysomalos, le bélier à la toison d'or, ce qui explique leur coût élevé. Panurge, après avoir en vain essayé d'abréger les boniments à propos des propriétés merveilleuses de ces bêtes, en acquiert finalement un et le jette à l'eau. Le reste du troupeau va rejoindre son congénère, emportant Dindenot et les autres bergers qui tentent de les retenir en s'accrochant à eux. Vous avez deviné que c'est ce récit de Rabelais qui a donné l'expression « les moutons de Panurge ». Et les moutons de Panurge sont des personnes qui suivent un ordre, une idée, une personne aveuglément, sans aucune réflexion. Lorsque nous avons abordé au culte ce matin le thème de suivre Dieu et surtout le fait de faire partie de son troupeau, d'être un mouton, cette expression m'est venue à l'esprit et c'est pour cela que je vous l'ai lue. Car en effet, que veut dire suivre Dieu ? Est-ce que cela veut dire, et on nous le dit souvent d'ailleurs, être un mouton de Panurge ? Suivre aveuglément sans chercher à comprendre ? Le thème « Dieu me conduit » est un... L'expression est choisie et fait partie des sentiers battus. Mais cela pose question. Dieu décide-t-il de tout à notre place ? Suis-je passif dans la vie que je mène ? Suis-je un mouton de Panurge ? Si Dieu est le berger, l'Éternel est mon berger, dit le psaume, cela veut-il dire que je n'ai plus à réfléchir, que j'ai simplement à suivre, sans autre ? J'ai choisi pour la méditation de ce matin, justement, le psaume 23. Du moins, simplement le début de ce psaume. Je l'ai cité brièvement il y a un instant. Psaume de David. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je vais lire simplement jusqu'au verset 3. « Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. » Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous avez noté les deux derniers verbes que j'ai soulignés oralement. Il me dirige, je lis dans la Nouvelle Bible Second, et il me conduit, mais j'ajoute celui qui précède, il me fait coucher dans de verts pâturages. Peut-être avez-vous fait l'expérience un matin d'été d'aller vous coucher à l'ombre d'un arbre, ou plutôt un soir d'été, d'aller vous coucher à l'ombre d'un arbre dans l'herbe, c'est profondément bienfaisant, c'est vrai. Les eaux paisibles, eh bien, quand il fait chaud, c'est pareil, on apprécie d'aller soit près des eaux paisibles, soit dans les eaux paisibles. La troisième expression est un petit peu plus... C'est une métaphore, les sentiers de la justice. Et il fait bon vivre, nous l'expérimentons aujourd'hui, cela a été dit dans une prière tout à l'heure, il fait bon vivre dans un pays où on peut se réunir, où on peut vaquer à ses occupations dans la liberté, et cette liberté, on nous veut de l'avoir, on nous en veut de l'avoir, si j'en fais allusion aux attentats de Nice. Mais ne la lâchons pas. Dieu peut-il conduire son peuple ? Dieu est-il capable de nous conduire ? Oui et non. comment Jean-Marc oses-tu dire que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose ? En fait, oui, il est capable, mais il ne le fait pas toujours comme nous craignons qu'il le fasse. Oui, Dieu est capable de conduire son peuple. Prenez le livre de l'Exode, par exemple, dont le titre, du moins dans notre langue, veut dire le chemin qui sort. Dieu a ouvert un chemin et a été suivi par le peuple. Il a appelé le peuple et le peuple l'a suivi. Souvenez-vous de cette image qui est donnée dans le livre de l'Exode, je rappelle, de cette colonne de feu ou de poussière, de nuée, une nuée que le peuple suivait pour trouver son chemin. Donc là, il s'agit bien de suivre. Et il ne consultait pas de carte, il suivait. Dieu est capable de conduire son peuple. Il peut le faire quand il veut, où il veut, de la manière qu'il choisit. Autre chemin plus difficile, celui-là, le chemin de la déportation. Dieu a conduit son peuple dans un pays qui n'était pas le sien. Avant cela, et je saute pour un exemple plus positif, Dieu a conduit Abraham dans un pays qui n'était pas le sien. Dans le Nouveau Testament, je dirais simplement, je ferai allusion simplement à quelques récits du livre des Actes. Dieu est capable, non pas de se faire suivre, mais d'arrêter quelqu'un. L'apôtre Paul partait à Damas pour persécuter les chrétiens. Enfin, ce n'était pas encore l'apôtre Paul, pardon. C'était Saul, celui qui persécutait les chrétiens, juifs fanatiques. Et malheureusement, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Dieu l'a arrêté. Dieu l'a terrassé. C'est aussi une manière que Dieu a de se faire suivre, que de nous arrêter sur certains de nos chemins. Et puis, autre exemple, avant cela, que disait Jésus lorsqu'il s'approchait de quelques hommes au bord du lac de Tibériade, de la mer de Galilée ? Quels sont les deux petits mots qu'il a prononcés ? Suis-moi. Et les disciples l'ont suivi, et suivi vraiment. Suis-moi. Les disciples ont été des suiveurs de Jésus. Et quand on lit les évangiles et ensuite les actes des apôtres, à vrai dire, on n'a pas l'impression qu'ils se comportaient en mouton de Panurge, pour reprendre cette image de Rabelais. Bien au contraire, ils avaient fait leur, c'est les convictions que leur avait proposées, données Jésus-Christ. Voilà pour le oui. Quelques exemples modestes et sans doute qui pourraient être accompagnés par bien d'autres. Pour le non, nous ne suivons pas, ou Dieu n'exige pas, ou ne fait pas en sorte que nous le suivions. Mais regardez-nous, regardez-moi, est-ce que je suis toujours Dieu comme un mouton de Panurge ? C'est-à-dire que je le suis aveuglément, sans défaillir et sans me poser de questions ? Je dois reconnaître, et je pense, j'imagine que vous le ferez avec moi, que nous ne suivons pas toujours Dieu. Au sens où nous n'écoutons pas toujours, ça a été dit tout à l'heure, les paroles qui viennent de lui. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Nous ne sautons pas à l'eau, comme dans le récit de Rabelais. Chacun s'engage ou pas. Chacun met en pratique la Bible ou pas. Chacun fait ses choix de vie en tenant compte de la volonté de Dieu ou pas. Chacun choisit conjoint, métier, lieu de vie et je ne sais quoi encore, selon ses propres choix, selon sa propre idée. La réalité que nous vivons en tant que chrétiens, c'est que ce n'est pas gagné, ce n'est pas évident, ce n'est pas systématique d'être des suiveurs de Jésus-Christ. Il y a un combat, il y a un effort de la volonté. Et c'est là où l'image des moutons de Panurge petit à petit s'éloigne. Parce qu'en fin de compte, ce sont des actes de notre volonté qui nous font acquiescer, prendre pour nous, pratiquer ce que nous avons reçu. et non pas quelque chose qui nous serait imposé, quelque chose que nous ferions bêtement. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Galates, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Alors il s'agit d'un contexte un peu particulier par rapport à mon propos, c'est celui d'être le respect de la loi. Vous savez, c'est ce souci légaliste de respecter la lettre de la lettre le plus précisément possible. Et Paul disait, mais écoutez, non, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, qu'il a fait son œuvre de grâce et de pardon. Mais je choisis quand même de le citer aujourd'hui, car notre vie de chrétien n'est pas une suivance justement obséquieuse, trop soigneuse de la lettre au détriment de l'esprit. Et il ne s'agit pas d'être des personnes qui mécaniquement vont faire toute une série d'actes pour suivre. Mais il s'agit d'un acte fondamental du cœur, si je puis dire, un acte du cœur, une décision personnelle de nous engager dans notre comportement, dans nos relations, dans notre vie intérieure, dans nos pensées, à être des suiveurs de Jésus-Christ. Alors la première idée que je retiens avec le psaume 23, je reviens au psaume 23, c'est l'idée du bien-être. Je l'ai dit tout à l'heure, je la souligne de nouveau. Du bonheur. Il ne s'agit pas de suivre... le récit des moutons de Panurge, là, nous en éloigne, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils étaient dans l'eau, les moutons de Panurge? Certainement plus grand-chose, à part se noyer, sans doute. Donc, là, nous en sommes loin. Vert pâturage, eau paisible, justice, tout va bien pour les personnes qui sont au bénéfice de cette conduite. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un genre d'abnégation, d'une négation de sa personnalité, d'une corvée qu'il faut accomplir, d'une soumission totale qui est écrasante. Rien de cela ne sort de ce début de psaume. Et l'image du berger est très positive. Le Seigneur est mon berger, c'est un compliment qu'on fait au Seigneur. Il prend soin de moi, il me nourrit, il me fait du bien, il me fait aller de là où c'est bien d'être. La conduite de Dieu est bonne pour moi. Il y a parfois une idée qui, dans notre société, dans nos cœurs peut-être, qui nous fait dire « si j'écoute trop Dieu, ma vie va être gâchée ». Si j'écoute trop la voix de Dieu, je vais devoir renoncer à trop de choses qui me feraient plaisir. Le psaume ici nous suggère une autre idée. Si je me décide à écouter la volonté de Dieu, à la suivre, bien je vais en gagner en bonheur. Je vais être plus heureux encore. Dieu me conduit. Qu'est-ce que cela veut dire en fin de compte? Quand j'étais, alors je crois que c'était quand j'étais jeune, c'est un certain temps, nous avions un chant. Alors c'était un chant qu'on chantait pour les enfants. Les enfants maintenant qui seront quelques années de moins que moi, quoi. Et ce chant c'était « Mon auto Jésus la guide sûrement, avec lui je file, file ». En chantant. Mais ce chant n'est pas vrai. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends voir. Ça veut dire que Jésus est au volant? Mon auto, Jésus la guide. Moi, j'ai pris ça comme ça. Alors peut-être qu'il est vrai, puis je ne vais pas faire de procès de ce chant, c'est pas l'idée. Mais enfin, voilà ce que j'ai pensé. Est-ce que Jésus est au volant de la voiture et moi, je suis passager de ma vie? Est-ce que je n'ai rien à faire quand moi je suis, j'aime bien me faire conduire, et quand je suis assis dans une place où il n'y a pas le volant, c'est un passager quoi, j'ai pas à décider de tourner à droite, d'appuyer sur le frein, etc. C'est très passif d'être passager. sauf à certains moments où, notamment mon épouse, quand elle conduit ou quand c'est moi qui conduis, on dit « attention, on fait ceci on fait un peu fonction de copilote ». Et c'est très bien, parce que ça m'a évité une fois ou l'autre de faire des bêtises. C'est moi qui conduis ma vie. Ce n'est pas Dieu. Je veux dire par là que c'est moi qui prends les décisions de ma vie. C'est moi qui fais les choix. Ne prenez pas cette phrase comme un rejet de Dieu. Vous allez me comprendre si ce n'est déjà fait. Je suis responsable de ma vie. Je ne peux pas dire c'est la faute de Dieu, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Quand j'ai fait une bêtise, c'est moi qui l'a fait. Quand j'ai réussi quelque chose, c'est moi qui l'ai réussi. Mais nous avons un très bon moniteur d'auto-école qui est à côté de nous, qui a des pédales aussi d'ailleurs. Vous savez, le moniteur d'auto-école peut freiner à votre place, hein, peut parfois prendre le volant si vous ratez le virage, peut accélérer peut-être aussi, et ce genre de choses. Ce moniteur nous enseigne les dangers de la conduite, ne pas nous mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger, nous enseigne le code de la route. Avant de prendre le volant, nous avons à passer le code. Il paraît que ça s'intensifie. Il nous enseigne comment changer une route secours. Qui sait encore changer une route secours? Il y en a certains qui sont des hypocrites, je suis sûr, qui ont levé la main pour me faire plaisir. Ah, je suis méchant. C'est comme Dieu qui est avec nous. Dieu n'est pas au volant, mais il nous enseigne comment conduire. Il nous donne la Bible, qui est notre code de conduite. La Bible nous enseigne comment nous comporter quand nous conduisons notre vie. La Bible nous enseigne comment entrer en relation avec Dieu, mais aussi avec les autres, quand nous conduisons notre vie. La Bible nous enseigne à respecter les autres, les droits des autres conducteurs. À ce propos, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous avait relu récemment le code de la route, depuis que vous avez le permis? Pour ceux qui ont le permis depuis 30 ans, ça fait combien de temps vous n'avez pas lu le code de la route? Un certain, disons 30 ans quoi. Je suis dans ce cas. Hein. Et bien voilà une différence fondamentale entre le code de la route et la Bible. J'espère que ça fait pas 30 ans que vous n'avez pas lu votre Bible, que vous l'avez lu pour le baptême avec le pasteur pour faire un... Et après, paf, on l'arrange, je n'ai plus de code de la route chez moi. Est-ce que la Bible subit le même sort? Il faut connaître ce livre. Il faut connaître la parole de Dieu pour connaître le code de la route, pour savoir comment me conduire. C'est trop facile de dire, nous les évangéliques, les protestants évangéliques, nous croyons dans la Bible. Et qu'est-ce que t'en sais de la Bible? Qu'est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Comment tu le sais si tu la lis pas, si tu fréquentes pas les études bibliques, si pendant les prédications tu penses aux alouettes? La Bible, ça se lit, ça s'étudie, ça se médite, devant le Saint-Esprit, devant Dieu, devant Jésus-Christ. Sinon, c'est pas la peine. On va mal conduire, on va prendre des sens interdits, on va tourner à droite alors qu'il fallait tourner à gauche, on va faire des excès de vitesse, et ce genre de choses. À la rentrée, nous allons lire ensemble la lettre, l'épître de Jacques, qui est éminemment pratique, qui est vraiment un code de conduite. Et je vous invite à fréquenter les groupes de maison, à fréquenter les études mensuelles d'introduction au sujet du mois. Ce genre de choses nous aide à mieux conduire notre vie. Car je vous le rappelle, c'est nous qui sommes au volant. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Quoi d'autre va nous aider? Plutôt, qui d'autre? Jésus. Nous l'avons vu conduire. Alors, je sais, c'est un anachronisme. Jésus n'a pas conduit de Twingo ou d'autres voitures. Nous l'avons vu conduire sa vie. Nous lisons assez de choses dans les évangiles sur Jésus-Christ, sur la manière dont il a communiqué avec les autres, dont il a aimé les autres, dont il a fait respecter le droit, dont il a pris soin des plus faibles. Nous avons assez à apprendre avec Jésus quand nous le voyons conduire sa vie, pour chercher à l'imiter, pour ne pas arriver à tout faire. Même si la Bible nous dit qu'elle ne dit pas tout sur la vie de Jésus-Christ, ce que nous savons de cette vie-là nous lance un défi important que nous n'arriverons pas toujours à relever. Et puis les enseignements de Jésus. Ce qu'il a vécu, il l'a enseigné. Prenez le sermon sur la montagne, qui est un concentré de codes de conduite extraordinaire, qui est connu pour être, un des discours les plus célèbres de Jésus. Il parle des relations conjugales, il parle des relations tout court, il parle des ennemis, il parle des biens matériels, il parle de la maîtrise de soi, il parle de l'inquiétude, et j'en passe. Nous avons donc un deuxième exemple, une deuxième aide à la conduite, non seulement le code de la route, mais aussi l'exemple du parfait conducteur. Autre aide à la conduite, l'Esprit-Saint, la voix intérieure que Dieu place dans nos cœurs, qui transforme notre manière de conduire, qui fait en sorte que nous ne chercherons pas forcément à aller plus vite que l'autre. Bon, c'est très masculin, ça, il paraît. Enfin, je constate. Nous ne chercherons pas forcément à passer avant l'autre. Nous avons passé quelques jours à Paris, et les Parisiens ont cette manière de conduire un peu différente d'ici, un peu, et où il faut s'imposer, il faut forcer le passage. Qu'on soit dans le métro, d'ailleurs, à pied, oui, parce que en voiture, ou alors dans les rues de Paris, il faut pas hésiter à s'imposer, à forcer un peu le passage pour passer. Sinon, on passe la journée à un carrefour. Ne pas chercher à aller plus vite, ne pas dépasser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas pécher par orgueil, ne pas chercher à être plus fort, plus compétent que l'autre. Par orgueil, si on veut être plus compétent qu'hier, pour soi, c'est très bien, il faut toujours progresser. Respecter les autres, les aimer, chercher à leur rendre service, leur dire une parole encourageante, relever le bien plutôt que le mal chez eux. Et ce genre de choses, c'est une manière de conduire que le Saint-Esprit produit en nous. Je vous rappelle le petit texte de Paul qui parle, alors je dis petit par la taille, pas par l'importance, il parle des fruits, les résultats que le Saint-Esprit produit en nous. Il y a la joie, l'amour, la paix, la patience. Mais si on... L'image est saisissante d'ailleurs, parce que si on conduit... Alors là, je parle de conduire une voiture avec les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire en étant paisible, pas énervé, en respectant les autres, en les injuriant pas. Bon, fenêtre fermée, certes, mais quand même. Ce genre de choses... On conduit mieux. Dans notre vie, c'est la même chose, chers amis. Essayez de rendre service. Essayez de bien conduire notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous transformer, pour nous guider dans cette manière de conduire. Une quatrième chose qui nous aide, je pense, c'est les promesses de Dieu, de chose ou personne. Dieu se porte garant de ma destination. Tu es au volant de ta voiture, Jean-Marc. Tu es au volant de ta vie. Je suis là pour t'aider à conduire. Je suis là pour te donner, te rappeler le code de la route. Mais en même temps, je te dis, Jean-Marc, que tu vas arriver au but. Un jour, tu pourras serrer le frein à main et tu seras arrivé. Et l'endroit où tu arriveras, ce sera des verts pâturages, des eaux paisibles, alors, des sentiers de la justice. L'endroit où tu arriveras sera merveilleux. Dieu se porte garant de ma destination. Cette destination où Jésus nous prépare le parking. Je transforme un peu un petit texte de l'évangile de Jean qui dit « Je vous prépare une place ». Alors, pas une place de parking, c'est une place dans la maison du Père. Dieu s'engage à nous faire arriver à cette place. Je conclus. Dieu me laisse le volant. Mieux qu'un GPS, mieux qu'un moniteur, c'est lui qui est assis à côté de moi. Mais la décision de tourner le volant à droite ou à gauche, de passer la quatrième ou de rétrograder, c'est moi qui la prends. Qu'est-ce que je vais faire de la Bible? Qu'est-ce que je vais faire du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je vais faire de l'exemple de Jésus-Christ? Comment vais-je intégrer, me souvenir des promesses que Dieu m'a faites? Qu'est-ce que je vais faire dans la conduite de ma vie? Je vous invite à réfléchir à cette question pour la semaine qui vient, non seulement quand vous conduirez votre voiture, si vous en avez une, mais aussi, et là nous en avons tous une, quand vous conduirez votre vie. Écoute ce que Dieu te dit pour prendre tes décisions. Écoute la voix intérieure du Saint-Esprit qui est présent en toi et qui fait son œuvre de transformation. Laisse-toi faire par cet Esprit qui est en toi. Lis, médite la parole de Dieu. Prends du temps pour connaître le code de la route. Souviens-toi des promesses que Dieu te donne en Jésus-Christ, ce Dieu fidèle qui n'abandonne jamais les promesses qu'il a faites. Et prends le volant de ta vie. Prions. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous n'avons pas à être comme les moutons de Panurge de Rabelais. Nous n'avons pas à suivre aveuglément. C'est un exercice de notre volonté que nous faisons. Mais nous te remercions quand même parce que tu nous guides, tu nous proposes une direction, tu nous enseignes le code de la route, tu nous donnes l'exemple parfait. Tu places en nous ton esprit qui est ta présence dans nos vies et ta voix dans notre cœur. Seigneur, nous te remercions pour tout cela et nous te prions que nous sachions conduire notre vie en tenant compte de ta présence à nos côtés et en nous laissant dicter notre conduite, entre guillemets, en nous laissant conduire, mais en même temps, Seigneur, en nous épanouissant nous-mêmes, tels que tu nous as créés, tels que nous sommes. Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous confier en toi, te confier nos vies, parce que tu sais conduire, toi. Et même si tu veux que nous conduisions, tu sais nous donner de bons conseils. Merci pour ces psaumes qui nous rappellent qu'à te laisser conduire, à te laisser nous conduire, à te laisser nous dicter, nous enseigner notre conduite. Nous avons tout à gagner. Merci Seigneur. Amen.